Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Aujourd'hui, par exemple, un documentaire animalier aux images spectaculaires. Vous retrouverez dans quelques minutes Rémi Jacob pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir. Peut-être que ce sera spectaculaire également. Et puis, dans une heure tout pile, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Notre info média, une légende de la radio et du journalisme sportif. 55 ans de radio et une passion toujours intacte. Cet été, Jacques Vendroux va recevoir des hommes politiques pour parler de sport. Des petits jeunes pour lui, parmi lesquels Édouard Philippe, Olivier Véran, Julien Audoul ou Sandrine Rousseau. On parlera avec lui des rapports entre sport et politique. Il connaît très bien le sujet depuis toujours. Il est le neveu du général de Gaulle. Nos invités ensuite, le médecin le plus célèbre de France, Michel Simès. On parle de son émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » avec sa complice Adriana Carambeu. Le thème de jeudi, le microbiote, avec des révélations scientifiques absolument réjouissantes. Et puis en deuxième heure, la comédienne Céline Salette pour « Les algues vertes », un film de Pierre Jolivet d'après une enquête et la BD d'Agnès Leroux. La journaliste Agnès Leroux qu'on avait reçue dans Culture Média en 2020 lors de son enquête sur le secteur agroalimentaire. Elle avait subi des pressions, des intimidations et même deux procès en diffamation. Eh bien, ça n'a pas empêché le film de sortir. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Marlène.
Bonjour Philippe.
Bienvenue pour cette semaine avec vous. Bonjour. Merci. Rémi Jacob.
Bonjour Philippe et Marlène. Bonjour.
Et bienvenue aussi pour cette semaine avec vous. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias.
Les émeutes urbaines avec le gouvernement qui met la pression sur les réseaux sociaux. Également les adieux de Catherine Matoche coupés en direct hier soir sur France 3. Ça a beaucoup fait réagir sur Twitter. Et puis Véronique Sanson distinguée par l'Institut National de l'Audiovisuel.
Mais d'abord, c'est la tradition, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Très très serré hein, hier soir, seulement 20 000 téléspectateurs d'écart entre TF1 et France 2, et c'est France 2 qui est en première position avec Mission Impossible Rogue Nation, 3 millions et 58 000 téléspectateurs. Je donne les chiffres précis exceptionnellement aujourd'hui pour le cinquième volet de cette saga culte portée par Tom Cruise. Juste derrière on retrouve TF1 avec 8 rues de l'humanité, 3 millions et 38 000 téléspectateurs pour ce film qui était une grande première. Sur TF1, est-ce que vous savez pourquoi ?
Dites-moi.
Eh bien, c'était la première fois qu'un film sorti sur Netflix et pas en salle était diffusé en prime sur TF1.
Ah. Bonne info.
Et oui, et France 3 qui clôture ce podium avec les enquêtes de Dan Sommerdahl. 1,8 million de téléspectateurs pour la série policière franco-danoise.
Et sur le reste du week-end, parce qu'on est lundi.
Alors, on commence par vendredi soir avec la série Tropique Criminelle, large leader sur France 3. 3,8 millions de téléspectateurs, hein, loin devant The Wheel, hein, le jeu d'Arthur sur TF1. Et France 3 qui clôture ce podium avec l'émission Le village préféré des Français, présenté par notre camarade d'Europe 1, Stéphane Bern.
Le village préféré des Français 2023, c'est Esquelbecq, dans les Hauts-de-France.
Esquelbecq, un magnifique commune située dans le département du Nord, élu donc village préféré des Français devant 2 millions de téléspectateurs. Et puis un mot également de la soirée télé de samedi soir avec le retour d'un jeu qui fleure bon l'été, et c'était sur France 2.
Bienvenue à Fort Boyard, les nouveaux atouts du Père Fouras.
Marlène, je suis sûr que vous avez regardé.
Ah, pas du tout.
Pas du tout. C'est pas les bêtes, tout ça.
Enfin, si, j'aime les bêtes, mais pas les insectes.
En tout cas, le Père Fouras et Fort Boyard, qui a une très bonne info, qui termine deuxième de la soirée avec 2,4 millions de téléspectateurs derrière France 3 et le téléfilm Mortel Calanque. Et pour le jeu de France 2, c'est un bon démarrage, meilleur que l'an passé. Enfin, du côté des chaînes info. Évidemment, avec l'actualité de ces derniers jours, hein, leurs audiences ont grimpé en flèche. Après LCI, il y a 10 jours, c'est CNews qui a battu vendredi son record historique avec 4,3% de part d'audience sur l'ensemble de la journée.
Europe 1, le journal des médias.
Justement, au début de ce journal avec les violences urbaines de ces derniers jours, les réseaux sociaux sont dans le viseur du gouvernement.
Ouais, des réseaux sociaux qui ont joué un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Hein. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Vendredi soir, les patrons de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et Twitter ont été convoqués par Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot. Objectif, contraindre les plateformes à retirer les vidéos encourageant ces émeutes, mais également bénéficier de leur soutien. soutien pour, je cite, « identifier les utilisateurs de réseaux sociaux qui participent à la commission d'infraction ».
On parle télévision maintenant avec le mercato qui se poursuit du côté des chaînes info.
Ah oui, ça continue avec une présentatrice qui a été recrutée chez la concurrence par BFM TV. Il s'agit de Julie Hamet, hein, qui officiait Julie Hamet depuis 10 ans sur LCI. Cette saison, elle co-présentait avec Éric Brunet la tranche 22h minuit sur BFM TV. Elle remplacera Aurélie Casse qui part sur France 5. Elle reprendra sa case 20h30, 22h. Elle présentera également les soirées Ligne Rouge, hein, qui sont les grands formats documentaires proposés par la chaîne.
Un appel à la grève de 3 jours à France Télévisions.
Et cela pour protester contre le projet Tempo, hein. C'est le nom de cette mesure censée entrer en vigueur le 4 septembre prochain. Elle prévoit la suppression du 12-13 et du 19-20, hein, qui sont les journaux nationaux de France 3, et leur remplacement par 24 éditions régionales cette fois-ci. Et hier soir, c'était donc l'heure des adieux pour Catherine Matoche, hein, qui présentait son dernier 19-20 du week-end après 19 ans tout de même à sa tête. Des adieux qui ne se sont pas déroulés tout à fait comme prévu, écoutez.
Et ce n'est pas fini car j'aborde de nouvelles aventures. Il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévision.
Eh oui.
Oh, c'est violent.
Eh oui, assez violent, hein, les adieux de Catherine Matoche, vous l'avez entendu, coupés par la chaîne. Alors, ça n'était pas volontaire, hein, c'est la publicité qui est partie automatiquement à l'heure prévue. Alors, peut-être qu'elle avait effectivement un petit peu débordé, hein, ce soir, la Catherine Matoche, mais ça fait tout de même bondir les téléspectateurs, hein, avec énormément de messages de colère sur Twitter. Et finalement, moins d'une heure après, c'est Laurent Delahousse sur France 2 qui a rattrapé cette boulette en diffusant à la fin de son JT à lui les adieux de Catherine Matoche, cette fois-ci en intégralité jusqu'à la fin.
Il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévision. Pour le plaisir, laissez-moi vous dire une dernière fois, madame, monsieur, bonsoir.
Et voilà, elle aura pu dire son madame, monsieur, bonsoir une dernière fois, Catherine Matoche, qui aura donc fait ses adieux complets, non pas sur France 3, mais sur France 2, à la fin du journal de Laurent Delahousse.
Michel Drucker est revenu sur les problèmes de santé qu'il a connus ces derniers mois.
Ouais, je me suis dit, cette fois-ci, c'est cuit. Ce sont les mots de Michel Drucker dans un entretien accordé hier au Parisien. L'animateur de 80 ans qui a dû subir une nouvelle opération du cœur en début d'année avec un pronostic vital engagé à plusieurs reprises. À un moment, j'ai eu une baisse de tension et mon pouls est tombé à 30 pulsations, indique-t-il au Parisien. On a été obligé de me poser un pacemaker. Il dévoile également dans cette interview les 3 surnoms que lui avaient donné les médecins à l'hôpital. L'extraterrestre, Terminator et le survivant. Ce sont ces 3 surnoms côté télé.
On dirait une trilogie du dimanche soir.
sur TF1, côté télé. Oui.
Et hier, c'était la journée mondiale des ovnis.
Absolument, et c'est un ovni, effectivement. Michel Drucker qui nous écoute et qu'on embrasse et qu'on salue. Côté télé, il reviendra à l'antenne le 27 août prochain sur France 3 dans Vivement Dimanche. Il espère également pouvoir couvrir les Jeux Olympiques de Paris 2024, hein, 60 ans après les premiers qu'il avait commentés. Hein, c'était en 1964 à Tokyo. Enfin, Michel Drucker, hein, qui est actif également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il vient de passer le cap des 10 000 abonnés, avec pour fêter ça un petit message à ses followers.
Qu'est-ce que j'apprends ? Vous êtes plus de 10 000 à me suivre sur Instagram, 10 000 followers. Ça me touche beaucoup. Je remercie le 10 millième. Alors si vous prenez des vacances, bonnes vacances, soyez heureux, la santé, les amis, à bientôt.
C'était vous le 10 millième abonné ?
Du tout, moi j'étais le 9999e, voilà. Non, en vrai, je suis pas sur Instagram. Benjamin Castaldi travaille sur un projet de série.
Ouais, c'est ce qu'il a dévoilé à nos confrères de TV Mag, une fiction qui se déroulera dans l'univers de la télé-réalité. Un univers que je connais bien, explique-t-il. J'ai déjà un coproducteur et c'est en plein développement actuellement. Il précise qu'il est accompagné dans ce projet par une certaine Angela Lorente. Alors, Angela Lorente, son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle était surnommée la papesse de la télé-réalité dans les années 2000. Hein. C'est elle qui a été à l'origine de nombreux programmes cultes comme Loft Story, L'île de la Tentation ou encore Secret Story.
Et Angela Lorente, ça dit quelque chose aux éditeurs de Culture Média puisqu'elle est déjà venue dans ce studio.
Absolument.
On termine avec Véronique Sanson qui a reçu ce week-end une distinction de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tout.
Philippe qui pianote sur sa table. Vous pouvez le voir sur europe1.fr, Véronique Sanson, icône de la chanson française, hein, une artiste je sais que vous aimez bien. Je crois que c'est la chanteuse d'ailleurs préférée de notre rédacteur en chef, Alexandre Gamelin, qui dit en régie et qu'on salue également. Véronique Sanson qui a reçu la distinction numérique de l'INA, hein, c'est le nom de cette récompense qui a déjà été accordée à seulement une vingtaine de figures majeures de la chanson, de la télé ou encore du cinéma, et cela pour souligner leur apport majeur au patrimoine audiovisuel français. Véronique Sanson, dont le volume d'archives disponible à l'INA est très très impressionnant, plus de 150 heures de télévision et 90 heures à la radio. Un petit peu de rap de Véronique Sanson, merci Jérémy Hébert.
Elle avait besoin de vous quand même pour donner cette info, Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec une légende du journalisme sportif, Jacques Vendroux, le pelé du micro, 55 ans de métier, la moustache la plus frétillante d'Europe 1. Et il nous présentera son émission de l'été sur le sport et la politique. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média avec Philippe Bondel, c'est l'heure de l'infomédia du jour.
Les légendes du sport passent, mais Jacques Vendroux reste. Vendroux, c'est 55 ans de carrière à la radio, 14 Coupes du Monde, 7 Olympiades, faut-il dire que c'est tous les 4 ans les Coupes du Monde et les Olympiades. C'est surtout le journaliste le plus joyeux, le plus curieux, le plus passionné, même gamin de toute la rédaction. À 75 ans, hors de question qu'il prenne sa retraite et les vacances, on en parle à peine. Cet été, pendant que d'autres vont se dorer la pilule sur la plage ou ailleurs, Jacques va tenir la baraque d'Europe 1. Bonjour Jacques Vendroux.
Bonjour à tous.
Vous êtes le Platini du journalisme sportif, le Pelé du micro, et vous animerez cet été tous les samedis de 9h à 10h. Et si on parlait sport sur Europe 1, merci d'être avec nous au micro de Culture Média. Question simple, quel est le concept de « et si on parlait sport ?»
Alors je vais vous dire la vérité, un matin je me suis réveillé et j'écoutais tous les leaders politiques, je les écoutais à la radio, à la télévision, je les écoutais sur Europe avec Sonia Mabrouk ou Laurence Ferrari. Et je me dis, ils parlent, ils défendent leurs idées, il n'y a pas de problème, c'est leur métier entre guillemets. Mais j'imagine que ces gens-là quand même s'intéressent au sport, ils savent qu'il y a la Saint-Etienne, qu'il y a Mbappé... qui est Yannick Noah, qui est Mohamed Ali. Enfin, je me suis fait les questions et les réponses. Et j'ai été voir, évidemment, Donat Villarrevel, et puis je lui ai dit, voilà, j'ai une idée, mais je ne sais pas si elle va marcher. Il faut, en tous les cas, je les appelle. Et donc, je fais une liste, mais qui n'engage que moi.
De politique.
De politique. Je fais un pas au hasard, mais je prends les 7-8 leaders politiques qu'on voit souvent à la télévision ou qu'on entend chez nous... à la radio. Et Donat Villarrevel me dit évidemment, pas de problème. Et j'appelle tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde me dit oui.
Déjà, je souris,
tout
Jacques
Vendroux. Tout le monde
Vendroux.
Me dit oui.
Déjà, souris, Jacques Vendroux, parce qu'un journaliste lambda, il fait une liste. Et après, il dit, bon, maintenant, il faut que je trouve le numéro des gens. Vous connaissez de base tout le monde.
Non, mais j'ai le numéro des gens par des amis, etc. Il n'y a pas de souci. Alors, il y en a, par exemple, je vous donne un garçon comme Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Je l'appelle, je lui laisse un message que je peux vous appeler. Et il me répond, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes journaliste sportif, etc. Vous n'avez rien à voir avec la politique. Je lui explique ce que je veux faire. Et il me dit, avec un immense plaisir. Et donc, ils m'ont tous, oui, quasiment tout de suite. Mais il n'y a pas eu... Alors après, vous passez par les attachés de presse, etc. Pour fixer le rendez-vous. Mais ça, c'est complètement normal. Mais j'ai été hyper bien reçu et j'ai été hyper étonné, hyper surpris de leur connaissance du sport.
Alors, j'ai dit que vous ne prenez pas de vacances. En réalité, il y a une petite astuce, parce que vous avez enregistré ces émissions, évidemment, parce qu'elles vont être diffusées au cours de l'été, mais évidemment, eux, parfois, seront ici ou là. Le sport et la politique, c'est une vieille histoire. Votre oncle, je n'apprends rien, c'était le général de Gaulle. Lui-même était allé sur le Tour de France, on l'a vu dans une émission récente. C'était le 16 juillet 1960. Pourquoi les politiques, et ça se vérifie en 2023, aiment-ils s'afficher auprès des sportifs?
Alors, il faut savoir qu'il y a deux cas, si je peux me permettre de dire ça. Vous avez des présidents de la République qui aiment vraiment le sport. Je parle d'Emmanuel Macron, je parle de Nicolas Sarkozy, je parle de François Hollande. Jacques Chirac aimait le sport pour entendre la Marseillaise, mais ce n'était pas un spécialiste de sport.
Il ne connaissait pas le nom des joueurs de l'équipe de France de 98.
C'est vrai, mais il avait beaucoup d'affection pour tout ce qui... Pour quand la France gagnait, quand il y avait la Marseille, comme le général de Gaulle. Vous savez, le général de Gaulle, il y a une anecdote incroyable. Après les Jeux Olympiques de 1960, je crois, oui, c'est ça, qui était à Rome, les Français, c'est une catastrophe. Pas une médaille. On est humiliés. De Gaulle convoque son ministre, qui à l'époque est quand même Maurice Herzog, et son directeur des sports. Son directeur des sports qui s'appelait Marceau Crespin, il les a virés dans l'heure qui suit. Parce que les résultats n'étaient pas bons. Et après, tout le monde s'est rattrapé en 1968, en 64 et en 68.
Alors, il y a eu beaucoup d'exemples de politiques et de sportifs. Pour vous, cette façon de s'emparer du sport pour et par les politiques, c'est calculé, c'est sincère ou c'est un mélange des deux ?
Je crois que pour certains, c'est sincère. Vous savez, quand vous parlez de... moi, j'ai parlé beaucoup avec François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ils aiment vraiment, vraiment le sport pour le sport. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ou ils vont décaler un rendez-vous, pour regarder un match de Coupe du Monde de football ou regarder un match du Tour de la Destination.
Nicolas Sarkozy est incollable sur le Tour de France.
Non, mais il connaît par cœur. Moi, il m'est arrivé souvent de parler avec Sarkozy de cyclisme. Moi, j'ai toujours dit que Nicolas Sarkozy, un jour, il terminerait président du Paris Saint-Germain. Parce que c'est sa passion. J'ai toujours dit, je le répands partout.
Vous avez des scoops ?
Non, j'ai pas des scoops, mais je sais qu'il est passionné. Non, mais il est passionné. Emmanuel Macron, non seulement il fait beaucoup de sport le week-end quand il est libre, Emmanuel Macron aime l'Olympique de Marseille, il s'en est jamais caché. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui a joué au football, qui a joué récemment avec le Variété Club de France. Donc c'est quelqu'un qui aime le sport pour le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de film. Un garçon comme Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, quand on lui a dit que l'AS Saint-Étienne était en finale de la Ligue des Champions en 76 contre le Bayern de Munich à Glasgow, il hallucinait. Il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il ne savait même pas de quoi on parlait. Et il a été obligé de les recevoir par la force des choses.
J'aime bien, il n'y a que vous, Jacques Vendroux, qui puissiez dire un garçon comme Valéry Giscard d'Estaing.
Non mais Valéry Giscard d'Estaing, je ne vais pas rentrer dans les...
Problèmes politiques,
mais un monsieur comme Valéry Giscard d'Estaing, si vous préférez, je veux dire, bon, il connaît pas du tout le sport.
Très bien. Alors, dans votre émission, vous allez recevoir des personnalités, il faut vraiment le dire, c'est très important, de tous les bords. Édouard Philippe du parti Horizon, Olivier Véran, c'est Renaissance, Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, Julien Oudoul, c'est le Rassemblement National, Alexis Corbière, c'est la France Insoumise, tous les ventes.
François Ruffin.
Et François Ruffin aussi. On voit qu'il y a là tout l'éventail politique. Quand ils parlent de sport, c'est comme si les frontières politiques n'existaient plus. Ça ramène pour eux à des émotions universelles.
Universelles. C'est-à-dire que vraiment, moi j'étais au départ un petit peu emprunté. Je me dis peut-être qu'ils viennent parce que ça fait bien d'être sur Europe cet été, etc. Pas du tout. Ils ont été chaleureux, très bons. Et ils connaissaient, à mon grand étonnement, certains connaissaient même très bien. Un garçon comme Julien Oudoul, que j'ai reçu pendant 50 minutes avec notre réalisateur Robin Leborgne.
Julien Oudoul du Rassemblement National.
Voilà, il connaît merveilleusement bien le foot étranger. Il connaît bien le PSG, il connaît bien Bordeaux, il connaît bien Marseille. Mais surtout le foot étranger. Il vous parle du foot anglais avec beaucoup de passion. Il vous parle du foot espagnol avec beaucoup de passion. Et donc, ça veut dire quelque chose quand même. Parce que le sport, vous l'avez dit très justement, rassemble et réunit. Quoi qu'il arrive,
Mais surtout que son parti est évidemment accusé de nationalisme. Donc c'est pour ça que ça vous fait sourire, évidemment.
Ben, il me dit, quand j'entends la Marseillaise, je suis content. Voilà.
Culture Média continue. Jacques Vendroux est avec nous. Et si on parlait sport, ça tombe bien, on en parle. À tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1. La suite de l'infomédia du jour avec Philippe Vandel et son invité, un passionné de sport, c'est Jacques Vendroux.
Le tennis est-il de droite ? Le Tour de France est-il de gauche ? Un coup franc de Platini est-il au-dessus des partis ? C'est les questions qu'on peut poser à Jacques Vendroux. Il va le présenter tout cet été à partir de samedi de 9h à 11h sur Europe 1. Et si on parle des sports, Jacques Vendroux avec nous. En même temps, il est assez logique que les hommes politiques, Jacques, soient fascinés par le sport. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux activités. D'abord, la compétition. C'est un monde où il faut battre son adversaire et qui sépare sans pitié les vainqueurs et les vaincus.
Vous avez complètement raison parce que j'ai posé la question à tous nos invités en disant qu'il y avait un parallèle, que c'était des compétiteurs, que c'était des joueurs qui voulaient gagner, qui voulaient perdre. Et par exemple,
qui voulaient pas perdre.
Qui voulaient pas perdre. Ouais. Non, mais qui voulaient gagner, ils pouvaient perdre et il fallait qu'ils acceptent la défaite. Ouais. Et donc, si vous voulez, le sport leur a appris, bien sûr, ce genre de philosophie. Petit exemple rapide. Fabien Roussel me dit, moi j'adore travailler une équipe, en équipe, donc comme une équipe de football, comme une équipe de rugby, comme une équipe de handball. En politique, on doit travailler en équipe parce que je veux gagner tout le temps, mais je vais perdre. Donc ça veut dire que ce que vous faites en ce moment, jusqu'à dans les prochaines années, vous voulez être président de la République. Oui, je veux être président de la République. Vous voyez, c'est cash, c'est clair, c'est net, c'est précis, et c'est grâce uniquement à cette interview sur le sport où il était décontracté. Et alors là, lui, c'est un supporter inconditionnel du Racing Club de Lens.
Fabien Roussel, il y a quand même le parallèle s'arrête à un endroit, c'est que
un sportif peut avoir un amour universel de la population. Je pense que tout le monde aime Zidane ou tout le monde aime Mbappé ou d'autres, alors que les partis, général, les élections, ça se joue à 50-50. Vous êtes aimé par une partie de la population et beaucoup moins aimé, pour ne pas dire détesté, par l'autre partie.
Oui, mais c'est ce que je me permets de dire régulièrement. Le sport est une porte de sortie incroyable pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour les gens en difficulté et même pour les politiques. C'est-à-dire, un politique, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit son pouvoir, quel que soit le poste qu'il a, il arrive toujours à libérer un petit peu de temps pour regarder un match du tournoi destination, pour regarder les Jeux Olympiques l'année prochaine, pour regarder un match de football, etc. Parce que ça fait ce qu'on appelle du bien à la tête. Ça fait du bien à la tête aux gens qui sont en difficulté dans le pays. Ça nous fait, nous, du bien à la tête. Et ça fait aussi du bien à la tête aux gens qui nous dirigent et qui animent la politique française.
Et une grosse autre différence également, c'est qu'en sport, quand on gagne, c'est un accomplissement. Alors qu'en politique, quand vous êtes élu, c'est le début des ennuis.
La
position est plus facile dans l'opposition.
Non, sauf que, je répète, même si récurrent, il n'y a pas de droite et de gauche. Il n'y a pas de victoire et de défaite. Il n'y a pas de « je suis au pouvoir, t'es pas au pouvoir », etc. Le sport réunit tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il
n'y
a aucune
dire.
Ambiguïté. C'est-à-dire que tout le monde est passionné par le sport. Il y a des gens qui... Il y a un certain nombre de politiques que j'ai eu la chance de rencontrer. Je veux dire, d'abord, je le répète, hein, ils ont joué le jeu. Il n'y a pas de sujet tabou. Formidable.
Tous et toutes ont joué le jeu. Parmi vos invités, une surprise, Sandrine Rousseau, qu'on n'attendait pas là, députée Europe Écologie Les Verts, elle qui parle de masculinité toxique. On l'imagine mal manger des merguez au bord d'un terrain de foot. Pourquoi ce choix d'inviter Jacques Vendroux?
Parce que j'ai fait... L'histoire, elle est quand même simple. Je regarde beaucoup la télé, j'écoute beaucoup la radio, Europe 1, et je vois qu'il y a des invités qui reviennent régulièrement. Mmh. Je ne les ai pas inventés, ces invités. Ce sont des invités politiques qui sont toujours dans l'actualité, quasiment tous les jours. Donc, Sandrine Rousseau, elle n'a aucune raison de ne pas être invitée. Je veux dire, elle a ses idées, elle a ses convictions, c'est son problème à elle, c'est pas mon problème à moi. Maintenant, moi, mon problème, c'est que je voulais savoir si elle aimait le sport, et elle aime le sport.
Alors, elle vous raconte qu'elle connaît rien au sport, mais que ses deux fils, eux, sont fans du LOSC. LOSC, c'est le club de foot de Lille, qui est en Ligue 1, et un jour, ses deux fils avaient réussi à se procurer un maillot dédicacé de toute l'équipe. C'était après le titre de champion de France. On écoute Sandrine Rousseau à votre micro.
Bon, je vais faire quelque chose, c'est que je vais m'excuser auprès de mes enfants. C'est que quand ils étaient petits, que Lille a gagné le championnat de France, ils avaient réussi à obtenir la signature de toute l'équipe sur un maillot de foot. Donc il y avait Eden Hazard, il y avait tout le monde qui avait signé leur maillot de foot. Et un jour, ils l'ont laissé traîner et je l'ai lavé. Et voilà, je voudrais m'excuser auprès de vous, mes enfants, parce que je sais que c'était pas correct. Voilà.
Oui, parce que les autographes ont disparu quelque part.
Ah bah, la lessive était efficace, oui.
C'était un lapsus inconscient, elle l'a fait volontairement d'après
non,
vous ou pas?
Non, je crois qu'elle ne se rendait pas compte de l'importance du maillot dédicacé par les joueurs pour ses deux garçons, etc. Et qu'elle a mis le maillot dans la machine à laver et finalement, ça a disparu.
Jacques, vous avez combien de maillots dédicacés vous-même?
Non, je n'ai pas que des maillots dédicacés, j'ai entre 4 et 450 maillots.
Et des maillots originaux. Alors, il y a certains qui sont sportifs, d'autres moins. Édouard Philippe, lui, pratique la boxe quotidiennement. Dans son bureau, il y a une photo.
Alors, Édouard Philippe, très gentiment, il nous a reçus avec Robin Leborgne en mairie du Havre. Et on fait l'interview, on parle, etc. On refait le monde, ses projets pour les Jeux, ses idées sur le sport. Et il me dit, vous savez, Jacques Vendroux, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Pour moi, il y en a un seul. Un seul qui est au-dessus. Vous pouvez me sortir les plus grands noms du monde. Que ce soit la boxe, que ce soit le... Il y en a qu'un qui est au-dessus. J'ai dit lequel? Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi? J'ai dit non, je vais être d'accord avec vous si vous me donnez le nom.
Ouais.
Alors il me dit Michel Platini. Michel Platini, c'est au-dessus de tout le monde. Artiste, buteur, type sympa. Il me dit, je crois savoir qu'il a eu des ennuis récemment. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjeuné avec lui. C'est un mec merveilleux. Pour moi, il est au-dessus. Et le deuxième, Mohamed Ali.
Qui est en photo dans son bureau.
Il y a des photos de Mohamed Ali dans son bureau. Il y a des livres sur Mohamed Ali sur son bureau. Et il a une admiration sans borne, évidemment, pour Mohamed Ali, pour sa carrière, d'abord de boxeur incroyable, et surtout pour ses engagements, je veux dire, aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier.
Alexis Corbière, vous l'avez déjà enregistré?
Oui.
Parce que lui, je me souviens, quand il y a la Coupe du Monde au Qatar, il avait dit vouloir la boycotter.
Alors,
finalement, il
dire,
a tenu ou
alors,
pas?
Je vais vous dire la vérité. Ah. La vérité, je vais vous la donner. en exclusivité sur Europe 1. Fin de l'interview. Je demande à Alexis Corbière s'il a vraiment boycotté la Coupe du Monde de football. Il me dit oui. Je lui dis, votre oui, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Parce que c'est un entretien qui est marrant, qui est sympa. Vous voyez, c'est pas, on ne délivre pas des messages politiques. Je lui dis, je ne suis pas du tout convaincu. Je suis sûr que vous avez regardé la Coupe du Monde à la télévision où vous avez écouté Europe 1. Il me regarde, il se marre, il me fait, allez, maintenant il y a prescription. J'ai regardé la deuxième mi-temps en famille du match Argentine-France. Voilà, il l'a dit. Donc, vous voyez, c'est clair. On peut revenir sur des sujets où ils avaient pris une décision et puis ils sont pris par l'enjeu. C'est une finale de Coupe du Monde. La France est en finale et il adore le foot.
J'adore. Jacques, il regarde Marlène comme s'il l'engueulait. Oui, on le sait, c'était la finale de la Coupe du Monde et on a failli gagner, on a perdu finalement. Malheureusement, Jacques Vandoux, un grand, grand merci d'être venu ici dans Culture Média. Je rappelle que vous animerez cet été et si on parlait sport, ce sera tous les samedis sur Europe 1 de 9h à 10h et avec une rediff de 20h à 21h. Merci.
Merci les amis. Merci.
Nous, on se retrouve dans un instant. On va partir à la découverte de notre deuxième cerveau, c'est le ventre, avec le médecin le plus célèbre du PAF, Michel Simès, qui consacre le prochain numéro de son émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » au microbiote. Qu'est-ce que c'est ? Il va nous dire.
Et le ventre, ben, faut le remplir de temps en temps. Laurent Mariotte, lui, nous régale chaque samedi de 11h à 12h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Mais Laurent Mariotte, ce sont aussi des vidéos. Il s'inspire d'une recette signature d'un grand chef français pour en faire une recette originale à réaliser facilement à la maison. Et la recette du moment, c'est une quiche au saumon et à l'oseille, inspirée d'une recette mythique de la famille Trois Gros. Donc si vous voulez voir cette vidéo, eh bien abonnez-vous aux réseaux sociaux d'Europe 1.
Europe 1.
9h41, la suite de Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et son invité média.
Bonjour Michel Simès.
Bonjour Philippe.
Médecin préféré des Français, vous ne consultez plus mais vous êtes toujours médecin. Quand on est médecin, on est médecin à vie.
J'ai atteint l'âge de la retraite.
Ouais, voilà. Et certains ne l'ont pas prise. Regardez Jacques Vandroux, 75 ans. Il est toujours là. Et Michel Drucker qui nous a donné rendez-vous pour la rentrée prochaine. On vous avait vu ou découvert au magazine de la santé pendant 20 ans, Allô Docteur, et vous présentez sur France 2. Vous continuez toujours les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec votre complice Adriana Carambeu. Le thème du jour, ça sera jeudi à 21h, le microbiote. Mais c'était ce matin, votre seul matin de libre pour être avec nous. C'est pour dire que vous avez une retraite suroccupée. Donc le thème, Michel, je l'ai dit, c'est le microbiote. Deux questions simples, c'est quoi et pourquoi ce thème ?
Alors le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Et en fait, ce sont toutes les bactéries qui colonisent notre tube digestif et qui sont des bactéries qui nous permettent de digérer, d'absorber tout ce que nous mangeons pour que ça passe dans notre organisme. Alors le microbiote ou la flore intestinale, pendant des années, on s'est dit, voilà, c'est des bactéries qui sont dans le tube digestif, on sait qu'elles sont importantes et qu'elles peuvent être touchées, par exemple, par un traitement antibiotique. Moi, quand je me souviens, quand j'étais petit, ma maman me donnait des antibiotiques quand j'étais malade et elle m'ajoutait toujours de l'ultra-levure pour apporter des bactéries qui pouvaient être détruites par les antibiotiques, parce que les antibiotiques, ça attaque toutes les bactéries, et pour éviter d'avoir des troubles digestifs. Et depuis une quinzaine d'années, les recherches concernant ce microbiote, ça représente quand même entre 500 000 et 100 000 milliards de bactéries. Ça pèse à peu près 2 kilos de votre poids corporel. Ouais. Et on s'aperçoit depuis une quinzaine d'années avec des recherches extraordinaires que finalement, notre microbiote ne concerne pas uniquement notre tube digestif. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être notre deuxième cerveau parce que ça, on le montre dans l'émission, ça a des retentissements sur notre cerveau. Et il est impératif d'équilibrer ce microbiote, ce qui n'est pas le cas quand on mange n'importe quoi.
Dès la première seconde de l'émission, c'est votre première phrase, Michel Simès, vous faites une révélation, vous dites vous avez toujours été sujet aux maux de ventre, ouais. Vous dites d'ailleurs mal au bide, comment ça se fait, les cordonniers sont les plus mal chaussés, je pensais que les médecins étaient pas malades, enfin pas de maladie chronique pour un médecin.
Si vous voulez, les médecins sont des êtres humains comme les autres et malheureusement ils peuvent tomber malades aussi,
oui,
effectivement.
Si vous dites que vous avez mal
j'ai eu des problèmes digestifs régulièrement toute ma vie. Ça durait un jour, deux jours, et puis ça passait. Si vous voulez, peut-être qu'on va en parler, mais j'ai fait une expérience pendant cette émission.
Je vais en parler juste après.
Voilà, et je me suis rendu compte, bon, ça fait quelques années quand même que je suis un peu l'actualité médicale, et je me suis rendu compte que j'avais probablement une alimentation qui n'était pas équilibrée, qui était responsable de ces troubles digestifs. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai une alimentation plus équilibrée et j'ai beaucoup moins de problèmes digestifs qu'avant.
Alors justement, vous avez fait une expérience par l'absurde, double expérience. Adriana Carambeu a fait un jeûne, elle va dans une clinique en Allemagne, je me suis demandé d'ailleurs pourquoi elle ne faisait pas le jeûne chez elle, il faut pour que ce soit spectaculaire, parce que c'est très beau ce qu'on voit. Parce qu'on peut rester chez soi pour ne rien manger. C'est pas la peine d'aller dans une clinique en Allemagne. Moi, de chez moi, je peux ne rien manger.
Non, mais d'abord, c'est de la télé, Philippe.
Bien sûr.
C'est plus, voilà.
C'était et le puis, sens de ma question.
Voilà, et puis il fallait que ce soit encadré médicalement, qu'on comprenne bien ce qui se passait, plus que si elle l'avait fait chez elle.
Et alors vous-même, vous avez fait une drôle d'expérience à front renversé. Vous n'avez pris que de la nourriture industrielle pendant une semaine. Je vous demande pas si c'était bon. On voit votre tête. Regardez l'émission vers la tête de Michel Simès. On sent qu'il aime pas trop. Mais surtout, quelles conséquences pour votre santé?
Mais c'est incroyable, parce que j'ai fait ça pendant une petite semaine, où j'ai effectivement mangé que des produits industriels, ce qu'on appelle les produits transformés, dont certains que je consommais sans le savoir, des petits pains au lait, des desserts lactés que je consommais en temps normal. Mais là, on a fait une étude de mon microbiote avant l'expérience, on a fait une étude de mon microbiote simplement après quelques jours de ce régime, et c'est effarant. Mais je suis tombé de ma chaise, moi, quand les types m'ont montré les résultats, où j'avais des bactéries bonnes pour la santé qui avaient complètement disparu, et des bactéries qui étaient mauvaises pour la santé et qui étaient apparues en quelques jours seulement. Heureusement, c'est réversible, mais c'est pour vous dire, si vous mangez mal toute votre vie, ce que ça entraîne avec les conséquences sur le reste de votre organisme, les cancers et puis tout un tas de maladies inflammatoires, etc.
Petit conseil pour les mamans avant qu'on marque une pause. Il y a une différence de microbiote entre les individus, d'abord à la naissance, déjà suivant que le bébé naît par césarienne ou par voie naturelle, ensuite l'allaitement au sein ou au biberon, les microbes c'est pas les mêmes, il y en a beaucoup plus évidemment par les voies naturelles, et une fois adulte il y a aussi les antibiotiques, ils détruisent les mauvaises bactéries mais ils détruisent également les bonnes, et ça m'a vraiment intéressé parce que c'est totalement contre-intuitif, la voix off dit « notre fâcheuse tendance à tout désinfecter », et vous dites même Michel Simès, une tétine un peu sale, c'est pas si grave, je pense aux mamans qui nous écoutent.
Oui, il faut déjà déculpabiliser les mamans qui vont accoucher par césarienne en se disant « Ouh là là, il va pas passer par en bas, donc il sera moins immunisé ». Déculpabiliser les mamans qui ne donnent pas le sein en disant « Ouh là là, c'est le biberon, il va pas être immunisé ». Tout ça, il faut déculpabiliser ces mamans et dire qu'effectivement, il y a des choses naturelles qui se passent dans le corps d'un enfant ou d'un bébé parce que l'allaitement, parce que l'accouchement, etc. Mais qu'aujourd'hui, alors je dis pas qu'il faut, on dit pas attention parce que je fais attention au message, mais on dit pas balancer la tétine dans les toilettes et redonner-la à votre enfant parce qu'il va s'immuniser. Il faut être raisonnable, mais effectivement, il faut arrêter d'aseptiser ce monde. Et regardez aux États-Unis ou dans certains endroits du monde où on nettoie tout. Ils sont complètement obsédés par l'idée qu'une bactérie puisse se balader. Ces bactéries sont là pour stimuler notre système immunitaire. À force d'aseptiser, on n'est plus préparé à recevoir des infections.
Il y a la question du microbiote, il y a la question des nitrites, il y a la question des politiques, et puis il y a aussi l'avenir et une information scientifique absolument réjouissante. C'est assez rare par les temps qui courent. Culture Média continue, Michel Simès est avec nous, à tout de suite.
Avec un peu de musique pour continuer. Un artiste qui stimule mon système immunitaire, personnellement, c'est John Lennon. En 1970, il est encore membre des Beatles, mais il avait déjà annoncé son départ en interne. Et c'est donc l'une de ses premières compositions en tant qu'artiste solo qu'on va écouter. C'est Instant Karma sur Europe 1. John Lennon.
Europe 1.
Culture Média continue jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et Michel Simès.
On parle des pouvoirs extraordinaires du corps humain, c'est à voir jeudi sur France 2 à 21h. Le thème de ce soir, de ce jeudi, c'est le microbiote. Le plus important, c'est qu'il est lié au cerveau, ce qui était une intuition puis un succès de librairie est devenu une réalité scientifique. C'est notre deuxième cerveau. Que faut-il manger pour nourrir son microbiote? Michel Simès, vous dites tout se passe au supermarché.
Des fibres. Il faut manger des fibres, beaucoup de fibres. Et regardez, quand vous allez au supermarché, il y a un moment, on fait des courses avec une chercheuse.
Ouais.
Le Nutri-Score, le fameux Nutri-Score ABCDE, il faut le regarder. C'est pas la panacée dans le sens où tout n'est pas dedans, mais c'est déjà un très très bon élément pour savoir si ce qu'on mange n'est pas trop gras, trop salé, trop sucré. Et d'ailleurs, il y a, ça vaut le coup de se renseigner un peu parce qu'il y a l'industrie agroalimentaire, des fabricants qui refusent de mettre le Nutri-Score sur leurs emballages. On peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas boycotter ces gens, ces industries qui refusent de nous expliquer que c'est bon ou pas ce qu'on achète. Et puis, voilà, il faut manger beaucoup de fibres parce que ce sont les fibres qui nourrissent ces bactéries de notre microbiote. Ce sont elles qui sont indispensables aux bonnes familles, aux familles de bonnes bactéries. Et donc, voilà, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, il faut manger tout ça et arrêter de manger les produits industriels.
Le slogan 5 fruits et légumes par jour, c'est pas seulement de l'affichage. Vous avez rencontré dans l'émission un jeune chercheur psychiatre. Il est à la PHM de Marseille. Il s'appelle Guillaume Font. Il donne des chiffres hallucinants. Alors, hallucinants parce qu'ils font peur et hallucinants parce que vraiment, ils font plaisir.
On a des méta-analyses maintenant. Donc, c'est des combinaisons d'études. Donc, il y a plus de 50 études de grosse taille dans plusieurs pays qui ont été combinées et qui prouvent qu'une alimentation de ce type, donc riche en légumes et en fruits, ça diminue le risque de dépression donc de 15% pour les fruits et de 9% pour les légumes. Et à l'inverse, d'avoir une alimentation inflammatoire comme l'alimentation majoritaire en France, ça augmente de 33% le risque de dépression. Et chez les gens qui ont des dépressions, il est prouvé que changer d'alimentation, et c'est ce qu'on recommande tous les jours dans le centre expert, ça améliore les symptômes de dépression. Parce que parmi ces symptômes, il y a le manque d'énergie, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit aussi. Et ça, c'est directement lié à l'alimentation.
C'est tellement simple d'aller faire son marché plutôt que d'aller acheter des aliments sous vide et sous plastoc. Et vous rencontrez même des gens, Michel Simès, dont la vie a été bouleversée par les récentes découvertes sur la flore intestinale. C'est le cas de Léo. Il a 13 ans. Il est atteint d'un trouble du spectre autistique. Si on ne voyait pas les vidéos, on n'y croirait pas. Son histoire paraît presque trop belle pour être vraie. Racontez l'histoire de Léo.
Bah Léo, oui, il est touché par un syndrome du spectre autistique, l'autisme pour simplifier, et qu'effectivement il y a eu un changement d'alimentation alors qu'il n'arrivait pas à lire, etc. Il avait tous les symptômes et le changement d'alimentation a transformé cet enfant. Alors
ce que dit sa maman, on n'en revenait pas. Et elle a changé l'alimentation, elle s'est rendue compte qu'il était intolérant à beaucoup de choses, le gluten et beaucoup de choses. Dans la semaine, il s'est mis à parler alors qu'il n'avait encore jamais parlé. S'il n'y avait pas la maman,
absolument.
Moi j'y croirais pas. Franchement,
non,
c'est
absolument.
Incroyable.
Après,
et c'est validé par des scientifiques.
Et c'est validé. Après, il faut faire très attention. Alors, ce cas est spectaculaire. Comme une dame qui était dépressive et qui, en changeant son alimentation, tout en prenant des antidépresseurs, a vu sa dépression diminuer considérablement. Comme on pense qu'il y a aussi, grâce à un équilibre alimentaire, moins de risques de faire une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Tout ça, je vous rappelle juste une chose, c'est que les recherches ont commencé il y a une quinzaine d'années. C'est peu 15 ans en médecine. Donc oui, il y a des choses extraordinaires. Oui, ça vaut le coup d'aller plus loin. Et pour ce petit garçon, ça a été absolument fabuleux. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui souffrent malheureusement d'autisme ou de troubles du autistique vont simplement par un changement d'alimentation aller bien du jour au lendemain et se mettre à parler ou à écrire du jour au lendemain. Mais ça vaut le coup d'essayer. Ça fait partie de l'arsenal sur lequel il faut se pencher. Et je m'adresse là à mes confrères. Parce que malheureusement, il y a pas mal de médecins aujourd'hui qui sont encore assez sceptiques vis-à-vis des effets thérapeutiques de l'équilibre alimentaire et du microbiote. Les études vont prouver que c'est vrai, qu'il y a un véritable lien entre le cerveau et l'alimentation. Et il faut que tous les médecins soient convaincus que ça vaut le coup d'essayer. Mmh. Encore une fois, on n'est pas en train de donner un traitement miracle. Mais ça vaut le coup d'essayer de se pencher sur sur cette thérapeutique alimentaire, ce que certains appellent c'est les des médicaments alimentaires, si vous voulez, une alimentation équilibrée. Ça vaut le coup de se pencher dessus et de le recommander aux patients.
Merci beaucoup Michel Simès, vous avez raison, il ne faut pas donner de faux espoirs aux parents, mais vraiment, c'est vraiment
c'est étonnant, c'est très étonnant et très spectaculaire.
À voir jeudi d'après, ce sera le jeudi 13, le thème ce sera demain, tous immortels, on va voir jusqu'à combien de temps on tient, et puis jeudi 20...
Ah, mais je vous conseille cette émission, elle est complètement dingue. Hein.
Alors je vais regarder.
On est allé aux États-Unis et elle est complètement folle.
Waouh. Et alors, on sera immortels, vous savez quoi Michel, on en reparle en 2343. D'accord, puisqu'on est immortels tous les deux. Merci d'avoir
Absolument.
Été avec nous dans Culture
Merci
Média.
Merci Philippe. Salut.
Je rappelle les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adrien Carambeau et sa complice. C'est jeudi à 21h sur France 2 Culture Média. Continue évidemment. Après les infos de 10h, notre invitée, c'est la comédienne Céline Salette pour le film Les Algues Vertes, d'après l'enquête et la BD d'Inès Leroux.
Et puis Les Indispensables, on parlera littérature avec Nicolas Caro. Et Héloïse Goua nous parlera d'un documentaire animalier aux images spectaculaires et qui cartonne sur Netflix.
Lui aussi est spectaculaire, c'est Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. Il arrive.